Voilà, je vous invite à prier pour la parole qui va nous être adressée de la part du Seigneur. Notre Dieu et notre Père, merci parce que tu nous as donné ton esprit, tu ne nous as pas laissé orphelins, mais tu nous as laissé ton esprit et ta parole. Et cette parole, Seigneur, qui ne passera pas, nous voulons la laisser parler en nos cœurs ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je voudrais vous donner avant de laisser la place à Michel, qui va commencer le mois de la famille, sur quel personnage cette année ? Josué, c'est bien. Il faut peut-être augmenter un petit peu pour que je puisse ne pas lécher le trône. Voilà, le micro, merci. Josué. Donc, dimanche prochain, elle est censée commencer ce temps du mois de la famille sur un personnage biblique. Mais auparavant, c'est un message un petit peu de vœux d'année, hein, aujourd'hui. En ce moment, tous les vœux sont donnés. Cette semaine, on était au vœu du maire d'Aubergenville. Mercredi, il y a le maire de Maule qui m'a écrit une petite carte d'invitation pour ses vœux en mettant en dessous fraternellement en Christ. Donc, vous voyez, on va honorer cette invitation pour être là à l'Assemblée Générale après, mais voilà, pour vraiment encourager aussi tous ceux qui, dans les autorités qui nous gouvernent, eh bien, ils soient aussi soutenus par les chrétiens. Donc, le passage que je vous propose, c'est dans la troisième épître de Jean. C'est une toute petite épître. Hein. Il y a un chapitre et il y a 15 versets. Donc, il est difficile à trouver, certainement, c'est avant Jude et avant Apocalypse. L'ancien, donc c'est Jean qui parle, hein, l'ancien, à Gaius. Gaius, donc c'est un chrétien auquel il s'adresse. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Qu'est-ce que vous dites quand vous souhaitez la bonne année à quelqu'un ? Bonne santé, voilà. Donc vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé, hein, les formules. Les formules sont éternelles. Bonne année, bonne santé, voilà. Et donc là, c'est un vœu que Jean formule à l'égard de Gaius. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Quels sont les deux mots qui reviennent ? Prospère. Alors, rassurez-vous, je ne veux pas vous prêcher l'évangile de la prospérité, bien que beaucoup s'appuient sur ce verset hein, pour prêcher sur l'évangile de la prospérité. Est-ce que vous croyez que les chrétiens doivent être prospères ? Ouais, bien sûr. Mais de quelle manière ? C'est la question, la manière d'être prospère. C'est comme l'argent. Hein ? L'argent, tout dépend si on met l'amour de l'argent devant, ça change tout, vous voyez. Donc prospérer, est-ce que c'est l'amour de la prospérité ? Ou est-ce que c'est la prospérité tout court ? Voilà toutes les questions qu'on peut se poser. Hein. Et toutes les questions auxquelles le monde chrétien est confronté pour souvent en faire une théologie. Vous voyez, une théologie de la prospérité, théologie de, comment ça s'appelle, en Amérique du Sud aussi, la libération, etc. Vous voyez, toutes les choses sont bonnes à condition qu'elles restent dans l'équilibre hein, et basées sur la croix. Sur ce que Jésus a fait. Alors donc, Jean s'adresse à Gaius. Donc Gaius était un croyant fidèle, et la prospérité de son âme se reflétait dans sa marche. Puisque là, Jean associe la notion de prospérité à l'état de son âme. L'âme, je vous rappelle que c'est aussi le mot qui désigne âme, c'est aussi la vie. Alors l'objectif, c'est d'avoir du fruit. Hein ? La corne d'abondance, c'est le fruit. Le Seigneur veut que nous ayons du fruit. Hein ? C'est l'objectif de notre marche chrétienne, c'est d'avoir du fruit. Pourquoi ? Parce que le fruit, qu'est-ce qu'il fait ? Si nous avons du fruit, qu'est-ce que Jésus dit dans l'Évangile ? C'est l'enseignement de l'Évangile. Pardon ? Oui, mais plus encore, un objectif bien plus élevé que ça, le fruit. Pardon ? Voilà, il glorifie le Père. Et vous, le fruit, c'est plus que de la prospérité pour la prospérité. Le fruit que nous portons glorifie le Père. Si vous portez du fruit, vous glorifiez le Père. Est-ce qu'il y en a qui veulent glorifier le Père? Eh bien, portez du fruit. Portons du fruit. Amen. Voyez-vous, le chrétien, il vit souvent les mêmes choses que l'inconverti, l'incroyant. Mais le sens va bien plus loin. Ça ne veut pas dire que les incroyants n'ont pas de sens. Enfin, ils n'ont pas de sens à leur vie. Mais le sens s'arrête, hein, comme le disait ce matin Alexis, le sens s'arrête à un certain niveau. Mais nous, nous allons plus loin. Nous allons dans l'éternité. Nous vivons, nous voyons dans l'éternité. Notre vision va plus loin. Donc le sens prend une dimension bien plus grande. Et le sens du fruit que nous portons, de la prospérité, c'est de glorifier le Père. Voyez-vous, on perd souvent la notion du sens. Et aujourd'hui, les gens s'intéressent au sens. Et nous, en tant que chrétiens, devons comprendre le sens pour donner le vrai sens. Et dans les siècles passés, ils comprenaient souvent plus le sens. Pourquoi ? Une des raisons, hein, je ne veux pas la faire une analyse sociétale, mais souvent parce qu'ils vivaient beaucoup moins long. Vous connaissez la courbe de la durée de vie. Hein. Au Moyen-Âge, elle était peut-être de 30 ans. Aujourd'hui, elle est plutôt de 80 ans. Et vous, donc à 30 ans, quand vous savez que vous pouvez mourir à 17 ans, c'est une moyenne de 30 ans, hein, les plus, quand vous aurez 17 ans, 18 ans, 25 ans, vous posez d'autres questions. Poser la question de la transmission, poser la question tout de suite de passer les choses essentielles, etc., etc., etc. Et l'éternité aussi. Aujourd'hui, les gens veulent vivre leur vie, profiter de la vie, etc., comme si ça ne s'arrêtait pas. Hein. Ok ? Vous voyez, c'est un mensonge hein, de l'ennemi. Mais nous vivons dans cette époque-là. Et Jean-Sébastien Bach, que j'aime beaucoup, hein, il y en a qui l'appellent le 13e disciple, mais bon, ça c'est autre chose. Mais Jean-Sébastien, toutes ses œuvres, il disait SDG. C'est quoi SDG ? Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Soli Deo Gloria. Toutes ses œuvres, vous voyez en bas, Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Voyez-vous, quand nous voulons porter du fruit et donner gloire à Dieu, nous avons le vrai sens. Le sens qui gouverne nos actions quotidiennes, nos actions au quotidien. Et là, Gaius, il avait ce sens de glorifier le Seigneur dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il portait deux choses dans sa vie qui sont très importantes. Les fruits de la prospérité, c'était quoi ? Enfin, bon, vous le voyez si vous lisez l'épître de Jean, là, très courte. Deux choses. Il y en a qui devinent ? La vérité. Vous êtes des gens de vérité ? La vérité et l'amour. Dans le royaume de Dieu, il y a deux choses essentielles, la vérité et l'amour. La vérité, pourquoi ? Parce qu'elle est l'antithèse du mensonge. Et si nous vivons sous le gouvernement du royaume de ce monde, dont le prince, vous le connaissez, eh bien, c'est le mensonge. Mensonge, plus ou moins, des mensonges pieux, des mensonges, mais c'est du mensonge. Des mensonges grossiers, des mensonges pieux, tout ce qui est mensonge, ça vient de l'ennemi. Si nous sommes des gens de vérité, pour regarder quelqu'un en face, dans la vérité, et quelqu'un peut regarder par nos yeux dans nos cœurs, nous sommes des gens de vérité. Soyons des gens de vérité. Gaius était un homme de vérité et d'amour. Parce que l'amour couvre tout, couvre le péché, pardonne, l'amour, mais dans la vérité. Et ce sont les deux faces de la nature de Dieu, la vérité et l'amour. Et Gaius était quelqu'un de cette trempe. Il était attaché à la parole de Dieu. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, et là je cite Jean 14, verset 23, il gardera ma parole. Il y avait de l'amour pour les frères, nous le voyons dans le verset 5 et 6. Un bien-aimé dira Jean, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont reçu témoignage de ton amour. Ils ont reçu témoignage. Témoignage. Voyez-vous, l'amour, c'est pas quelque chose qui se commande. J'ai l'amour. Non. Il y a des frères qui témoignent de notre amour. Ou pas de notre amour. Voyez-vous, l'amour se mérite dans le sens où les autres le remarquent. Hein, et nous ne l'imposons pas. Alors, est-ce que nos âmes prospèrent? Parce que si nous voulons être en bonne santé, si nous voulons avoir une bonne santé, si nous voulons être prospères, eh bien, tout dépend de notre âme. Vous voyez, selon ce verset, est-ce que notre âme prospère? Est-ce que nous voulons prospérer cette année dans notre âme? Alors, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qui empêche notre âme de prospérer? Quelle est la cause number one que notre âme ne prospère pas? Désobéissance à Dieu? D'autres avis? La crainte? D'autres avis? Vous voyez, je pose une question importante. Nous venons voir de la parole de Dieu, selon Jean, l'apôtre de l'amour, il dit à Gaïus que tu sois prospère et que tu aies une bonne santé selon l'état de ton âme. C'est important ça, de savoir comment est-ce que notre âme prospère ou quels sont les handicaps qui empêchent à notre âme de prospérer. Il y en a qui veulent que leur âme prospère cette année? Alors, quelle est la cause numéro un qui... Alors voyez, moi-même en tant que pasteur, je me suis posé cette question quand j'ai vu les difficultés que nous avions à établir une église ici à Elisabethville. Et pendant 10 ans, j'ai galéré, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui empêche à l'église de prospérer? Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi est-ce qu'il y a des divisions? Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes? Pourquoi? Et Dieu m'a dit clairement, il m'a parlé clairement, presque audiblement. Ce que je vais vous dire est ce que cette épître nous enseigne. Donc on a parlé de désobéissance, c'est vrai, on a parlé de crainte. Les idoles. Pourquoi les idoles? Vous me direz, c'est un leitmotiv. Non, c'est pas un leitmotiv. Dieu m'a dit, c'est parce qu'il y a des idoles dans l'église qu'elle ne peut pas prospérer. Dieu me l'a dit ça. Et c'est à partir de là que tout mon ministère a changé, que toutes mes orientations ont changé, que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu cette révélation. Alors, regardez Jean, la première épître de Jean, vous tournez la page, c'est pas loin, au verset 1er du dernier chapitre, le chapitre 5, qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce que vous lisez dans vos Bibles? Jean, toujours le même, Jean, qu'est-ce qu'il écrit? Pardon? Petits enfants, gardez-vous de quoi? Le dernier, tout dernier de la première épître de Jean. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire quoi? Gardez-vous. Ça veut dire qu'il y a un danger. Gardez-vous. Quand on dit à un enfant, garde-toi de toucher à ce four parce qu'il est chaud. Garde-toi. Hein. D'accord? On peut y toucher. Mais garde-toi, je veux dire, c'est une précaution, on te donne une précaution. Bien, c'est exactement la même chose. Si, bien-aimé, et si Église d'Elisabethville, tu veux grandir et prospérer, garde-toi des idoles. Ça, c'est le message number one pour prospérer. Alors pourquoi? Pourquoi c'est le number one? Ben, tout simplement parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'une idole. Quelle est la définition? Moi, j'avais pas compris ça. Hein. Pourtant, je me suis converti en 1967. Donc, vous faites le calcul. Arrivé en 1998, je savais toujours pas ce que c'était qu'une idole. Parce que pour moi, les idoles, c'était l'Afrique. Voyez-vous, c'est facile. Hein. C'était oh, l'Afrique est dans des idoles. Bon, je savais qu'une église catholique est des idoles. Mais voilà, ça se cantonnait à ça. Mais moi, je ne savais pas vraiment ce que c'est qu'une idole. Quelle est la définition d'une idole pour vous? La plus simple. Pardon? Bien, bien, Isabelle. Bien, Isabelle. Si vous avez cette définition en tête, vous comprenez tout. C'est-à-dire que vous surpassez l'idée qu'une idole, c'est une statue, vous surpassez l'idée qu'une idole, c'est une image, parce que ça, c'est des représentations d'idoles. Mais vous savez, l'image, une statue, ça peut très bien... une image mentale, vous connaissez les images mentales? Regardez, je vous donne un exemple. Un cyprès, non, c'est trop compliqué. Un bouleau. Vous voyez dans votre tête le bouleau? Ouais, c'est une image mentale. J'ai pas besoin de vous projeter une image. Quand je vous dis un mot, vous avez une image. Et ça peut devenir une idole, vous voyez? Donc, l'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Hello? C'est clair? C'est simple? Tout ce qui prend la place de Dieu. Alors aujourd'hui, vous voyez, tout le monde, vous voyez, pour Noël, j'ai un iPad. Bon, Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Non, c'est pas pour faire de la pub, mais juste pour dire. Et où? Là-dessus, il peut y avoir des idoles. Parce que c'est du virtuel, on est dans un monde virtuel. Allô? Donc, voyez-vous, les idoles, elles changent de nature, mais le fond ne change pas. Le fond du cœur humain n'a pas changé et ne changera jamais, parce que Dieu l'a créé ainsi. Mais les idoles changent de forme. Mais si vous avez la définition première, une idole, elle est tout ce qui prend la place de Dieu, vous avez donc compris. Donc une idole, par exemple, je donne des exemples, ça peut être nos plans. Les plans que nous formons cette année, ça peut être une idole. Ça peut devenir une idole si nous y attachons. Ça peut être nos projets. Ça peut être nos ambitions. Voyez-vous, ça ne veut pas dire que les projets sont mauvais. Vous avez compris. C'est que si nous attachons au projet, ça devient une idole. Nos ambitions, nos études, nos biens, notre argent. Ça peut être nous-mêmes une idole. Si nous ne prenons pas garde. Un fiancé, une femme, un mari peut devenir une idole. Vous voyez? Si ça prend la place de Dieu, numéro un, c'est Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. C'est pour ça, même dans un couple, soyez très ferme, mari ou femme. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Si vous avez cet ordre, les choses peuvent fonctionner. Si vous avez d'autres ordres, vous êtes en danger. Évitez les idoles. Dieu d'abord. Et c'est là que vous serez heureux. Sondons nos cœurs dans la présence de Dieu et posons-nous chacun la question, honnêtement, y a-t-il dans mon cœur une idole que je chéris, que je n'ai pas encore abandonnée pour l'amour de Christ? Utilisons le miroir de la parole de Dieu qui va nous aider. Utilisons ce miroir qui nous montre comment nous sommes, ce qui ne va pas dans nos vies, pour mettre les choses dans le droit chemin. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, il est dit « Sonde-moi, ô Dieu », c'est David qui parle, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Vous savez, quand Jésus remplit un cœur, et vous l'avez expérimenté à votre conversion, mais ce qu'il faut, c'est revenir au premier amour. Et très souvent, la vie nous amène à quitter notre premier amour. Et Dieu veut nous y ramener. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre Jésus? Que se passe-t-il dans notre cœur quand on remplit Jésus, Philippe? On l'aime. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre Jésus? Vous avez rencontré Jésus un jour? Oui, ce qu'on ressent. La légèreté, la paix, l'énergie. Voilà. J'ai pas entendu. La joie. Voilà. Je peux résumer ça en un mot, c'est le bonheur. Vous êtes d'accord? C'est comme ça qu'on vit à Jésus. On compte le bonheur. Le bonheur, c'est la joie, la paix, la sérénité, enfin tout ça, quoi. Vivre dans le bonheur, vous voyez, quand on dit ça. C'est tout ce que vous avez dit, et encore plus. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? C'est ça la question. Si vous voulez que votre âme prospère, il faut que vous posiez la question. Est-ce que je suis heureux? Qu'est-ce qui a dit ça? Je ne sais plus. Un chanteur? Je suis heureux. Isabelle, non. Je ne sais plus. Ça renvoie à quelqu'un qui a dit je suis heureux. Mais vous savez, le bonheur profond. Le bonheur qui ne se fabrique pas, qui ne change pas. Et vous, moi honnêtement, je ne sais pas vous, mais je suis sûr que vous avez la même impression que moi. Ce matin, quand Alexis est intervenu, j'ai vu quelqu'un d'heureux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu quelqu'un d'heureux. Heureux parce qu'il a présenté des valeurs d'éternité. Il a présenté des projets qui sont motivants malgré la souffrance. Voyez-vous, le bonheur, c'est quelque chose d'une autre nature que ce que le monde propose. Hein? Ah, il propose des iPads, bon, et alors? C'est un outil. Hein? Il propose des lunettes dorées, colorées, bon, pourquoi pas? C'est chouette, c'est cool. Mais c'est ça le bonheur? Bah oui. Mais les gens s'attachent à ça parce qu'ils n'ont rien d'autre. Est-ce que nous, chrétiens, nous les jeunes, vous êtes là, est-ce que vous avez le sens profond du bonheur? Le bonheur, la félicité éternelle, c'est de rencontrer et de connaître Jésus et de marcher avec lui au quotidien, chaque jour. Amen. Et quand vous avez ça, ça vous garde de chercher des idoles. Ou tout au moins quand l'idole arrive, dites non, le vrai bonheur c'est ça, et je choisis le vrai bonheur. Amen. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. C'est un petit chant qu'on chantait quand on était plus jeune. Mais dans le cas contraire, il n'y a pas de vraie joie, il n'y a pas de vraie satisfaction. Il y a toujours une envie d'autre chose. Une envie de plus, et puis ça y est, on n'en a pas assez, il faut encore plus. Ça, c'est l'Occident. Hein, et c'est comme ça qu'il y a des décalages entre les différents pays. Dans Éphésiens chapitre 5, alors c'est souvent un passage qui fâche, hein, parce que il parle de la soumission à la femme, hein, de la femme à l'homme. Hein. Donc, Éphésiens 5, c'est un peu une bombe, mais regardez ce qui est marqué dans Éphésiens 5, verset 19. C'est le contexte d'Éphésiens 5. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur. Comment ? Comment ? Comment ? Alors dites-le tous ensemble. De Amen. Alors je vais être un peu provocateur, mais vous me connaissez, je suis toujours un peu provocateur, mais je le suis derrière Charles. Hein, je me cache derrière Charles, il est plus grand que moi. Je suis provocateur après Charles. Je déduis que vous n'êtes pas heureux, enfin ceux qui arrivent à 10h40 le matin. Bon, à part les moments où ça arrive à tout le monde, hein, moi aussi je peux être en retard. Pourquoi ? Parce que le bonheur, si vous connaissiez le vrai bonheur, vous viendriez chanter de tout votre cœur. C'est pas une provocation, parce que moi, ça me dérange pas. Le culte, je peux le faire à 10h40. Bon, on partira à 1h40, c'est pas de problème. Mais c'est vous qui choisissez. Non, mais bon, c'est un choix. Bah, les Africains, c'est ce qu'ils font. Hein. Les Africaines à Courcouronne, on est arrivé à 10h. Bon, ça commençait à 12h15, et ça se termine à 3h. C'est pas un problème, c'est des choix culturels. Enfin bon, ceci étant, je vous ai dit, je suis provocateur. Mais le vrai bonheur, c'est quand on chante de tout son cœur au Seigneur. C'est le sens profond de la louange, de l'adoration. Là, on est dans le temps d'enseignement, bon, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va vous apporter le vrai bonheur. Ça va vous apporter une connaissance, une plus grande connaissance de la parole. Mais c'est au moment de la louange et de l'adoration que le vrai bonheur s'exprime, parce que vous chantez de tout votre cœur. Vous avez compris ? C'est le sens du bonheur. Je vais vous dire une chose, si vous n'êtes pas heureux, vous allez tomber dans les idoles, c'est obligé. C'est parce qu'on est fait comme ça. On est fait pour adorer. Mais qu'est-ce qu'on adore, voyez-vous ? Vous comprenez l'idée ? C'est que Dieu nous a fait comme ça. C'est pas la peine d'inventer une façon de fonctionner. Dieu nous a fait comme ça, et c'est lui le constructeur, c'est lui qui sait comment on fonctionne. Et pour être heureux, il veut que nous ayons une relation avec lui, il veut que nous soyons en relation avec lui. Et en relation avec lui, ça veut dire que quand nous sommes dans la louange, eh bien, nous lui apportons la reconnaissance, et après lui nous parle, mais c'est un dialogue, vous voyez. Et s'il y a que vous voulez entendre Dieu, mais que votre idole est là, vous ne pouvez pas l'entendre, parce que vous voyez. Donc le message, il ne va pas être reçu s'il n'y a pas un temps de préparation dans la louange où vous exprimez votre reconnaissance au Seigneur. Oui, c'est une relation, ce n'est pas une religion. C'est vrai que l'Église catholique a dû suivre la poussée de ses fidèles pour arriver. Alors, ils ont fait très fort, enfin, de toute façon, ils sont très forts, hein, pour s'incliner devant eux. Ils ont réussi à faire une messe en une demi-heure. Peut-être qu'ils vont arriver à la faire en 25 minutes, peut-être avec un clip, vous savez, un flash comme on fait sur les pubs. Aux États-Unis, comment ça y arriver ? Donc on va y arriver, c'est pas un problème. Pour satisfaire la clientèle chrétienne, on arrive à diminuer les choses pour le faire. Oui, mais une fois de plus, je suis provocateur. Mais ça montre l'orientation. Ça montre où on veut aller. Est-ce que nous ne voulons pas passer du temps dans la présence du Seigneur pour expérimenter le vrai bonheur ? Et ça, ça va nous garder des idoles. Nous garder des idoles, c'est pas parce que tous les dimanches, je vais vous dire, gardez-vous des idoles, gardez-vous des idoles, gardez-vous des idoles. Vous voyez, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous allez être gardé des idoles parce que votre cœur est attaché à Dieu. Parce que votre cœur est rempli de bonheur. Parce que votre cœur est rempli de sérénité, de joie, de paix, etc. Vous voyez? Je pense que vous avez dû vivre quelque chose là au Sénégal. Enfin, je sens ça. Hein, que comme en Afrique, ils n'ont pas tout ce qu'on a, ils comprennent mieux des valeurs, hein, de profondeur et de temps qu'on passe dans les relations, je pense. Oui? Non?
C'est un peu cette idée qu'on partage avec Claudine et Alex. Ils nous disaient que Albert et Clarisse, parce que des fois, la base, elle est un peu vidée, il n'y a pas beaucoup de monde, et puis il y a beaucoup de travail et beaucoup de choses. Et comme le leitmotiv de cette base, c'est vraiment entendre la voix de Dieu, c'est passer du temps avec Dieu tous les jours, seul, parce qu'ils peuvent pas toujours se ressourcer auprès de, dans des formations, des retraites spirituelles, etc. Mais ils cherchent vraiment à se ressourcer auprès du Seigneur. Et on sent du coup qu'ils sont remplis de Dieu et que tout paraît plus léger et ils sont épanouis, alors que ce qu'ils font, c'est pas toujours évident. Mais parce qu'ils passent ce temps avec Dieu tous les jours et que c'est vraiment entendre la voix de Dieu qui est répétée et répétée et c'est ça qu'ils veulent vivre, et ben du coup on sent que voilà, leur âme prospère quoi.
Amen. Amen. Vous dites amen. Les vraies valeurs du royaume, c'est la relation avec notre Dieu. Une des conséquences, c'est que nous allons cesser de faire le mal. Et de faire et d'apprendre à faire le bien. Dans Osée, alors on va arriver à Osée, il y a un passage que j'ai découvert quand j'ai préparé ce message qui est extraordinaire. Un passage de Osée qui est extraordinaire parce que je l'ai jamais compris. Je l'ai jamais compris. Non, mais j'ai lu la parole, hein, je suis comme vous, je lis la parole, mais je l'ai pas compris. Et là, je vais vous le faire comprendre, qui est extraordinaire. Un dialogue entre Dieu et l'âme. On parle de l'âme qui doit prospérer. C'est entre un dialogue entre Dieu et l'âme. C'est formidable, ça. Ça répond tout à fait au message, comment notre âme prospère. Et voilà le dialogue. Éphraïm. Éphraïm, c'est qui, Éphraïm? Bon, c'est une des tribus d'Israël, mais quand on dit Éphraïm, c'est souvent le nord d'Israël, et parfois c'est l'ensemble d'Israël. Hein. Donc c'est le peuple d'Israël. Éphraïm, Israël. Et dans certaines versions, c'est marqué Éphraïm dira. Bon, là, c'est pas dira, mais il faut le lire. Éphraïm dira. Il dira quoi? C'est en bleu ce que l'âme dit, ce que l'âme d'Éphraïm dit. Et dit, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Tiens, c'est étonnant, ça. Qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Et vous, l'apôtre Jean, il tombe pile, parce que c'est le Saint-Esprit, sur les mêmes racines des problèmes du bonheur et de la prospérité. Qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Et vous, il se pose la question. L'âme dit, mais qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Et vous? Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Non, les idoles.
Je peux plus me bouger, il n'y a plus de pile. Qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Voyez-vous, il se pose la vraie question, mais pourquoi ces idoles, qu'est-ce qu'ils font là? Voyez, c'est la bonne question. Et la réponse de Dieu, je l'exaucerai, je le regarderai. Dieu répond à cette âme, la réponse, je me manifesterai à lui. C'est Jésus qui le dit au chapitre 14 du verset 21. C'est la même réponse que Dieu donne à Osée, à l'âme. Jésus dit, je me manifesterai à eux. Dieu répond aux prières de ceux qui demeurent en Christ. Jean chapitre 5 verset 7. Car leurs prières sont en accord avec sa volonté. C'est ça. Jésus a toujours été exaucé par le Père parce que ses prières étaient en accord avec sa volonté. Et non seulement il répond au cœur qu'il aime, mais encore il le regarde. Voyez-vous, Dieu nous regarde. Dieu regarde là. Je le vois. Hein, je le regarderai. Il a son œil sur lui. Psaume 32, verset 8. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Si nous continuons à lire le verset, nous voyons que l'âme reparle. Qu'est-ce qu'elle dit ? Moi, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. Vous savez ce que c'est qu'un cyprès ? Il y en a qui sont des cyprès les Landes. Alors, je vais vous montrer une image. Alors, je ne peux plus utiliser le micro. Ça, c'est des cyprès. C'est quoi la particularité du cyprès ? Il y a plusieurs particularités de cet arbre. Un cyprès verdoyant, on le retrouve souvent dans la Bible. C'est des symboles, mais symboles qui représentent quelque chose. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le cyprès ? Voilà, il est en hauteur. Tous les cyprès sont en hauteur. Donc, il s'élance vers le ciel. Voyez, il cherche le sens qui est au ciel et pas sur la terre. Deuxième symbolisme. Pardon. Il reste toujours vert, tout à fait. Et vert comme été, il reste vert. Pardon ? J'entends pas. Ça, je sais pas. Si, comme tous les arbres. Parce que... Si, parce que moi, j'en ai qui sont morts. Parce que... Oui, parce qu'ils ont justement un manque d'eau. Autre particularité, ils ont des racines profondes. On ne peut pas le voir quand on regarde le cyprès, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le cyprès, par rapport à ça ? Eh bien, ça nous dit plusieurs choses. Ça représente, ça symbolise la prospérité de l'âme. Le cyprès, ça symbolise la prospérité de l'âme. Cet arbre s'élance droit vers le ciel. Il est verdoyant, ses racines s'enfoncent profondément dans le sol. La grâce a fait de nous des bienheureux. Nous sommes heureux, nous avons le bonheur à cause de la grâce. Comme le cyprès, notre cœur s'élève tout droit vers Dieu. Nous prospérons à sa lumière. Nous sommes pleins de sève verdoyant et nos racines s'abreuvent aux sources cachées et profonde de la grâce divine. Amen. Et ensuite, Dieu répond à cette âme. Il dit, c'est de moi que tu recevras ton fruit. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire que, et les réformateurs l'ont bien compris, ils ont dit « sola gratia ». En latin, ça veut dire « la grâce seule ». Ils ont compris que c'est la grâce seule qui est importante. Pourquoi ? Parce que même si nous sommes dans le meilleur état spirituel, imaginons que vous soyez cette année dans le meilleur état spirituel que vous avez jamais été. Il faut toujours prendre garde à la vieille nature qui est en nous. Il y en a qui n'ont plus de vieille nature ici. Donc il faut prendre garde, parce qu'elle est là. S'il ne veille pas, c'est pour ça qu'il faut veiller. Veiller et prier. Il faut veiller. Parce qu'il est en danger de s'attribuer quelque chose, même si c'est un bon état spirituel, il est en danger de s'attribuer ce qui provient de la grâce de Dieu seul, uniquement de la grâce de Dieu. C'est pourquoi celui qui veille sur son âme nous rappelle ici, de moi provient ton fruit. Même si nous avons des beaux fruits, c'est de Dieu qu'ils viennent, ce n'est pas de nous. Même si nous, nous faisons ce qu'il faut pour les avoir. Voyez-vous, il faut se rappeler que c'est de Dieu que vient le fruit. Si tu portes un fruit, quel que soit le fruit, il provient de moi seul, ne l'oublie pas, dit le Seigneur. De moi provient ton fruit. Si tu portes quelque chose, quelques fruits, ce fruit provient de Dieu, parce que nous sommes sous la grâce. Nous tenons debout par la grâce, nous ne portons du fruit que par la grâce. Comme je le disais, Jean-Sébastien Bach, il l'avait compris, et ses compagnons de route également, soli deo gloria. Dieu seul la gloire, même si nous avons des fruits et des talents extraordinaires. Cela nous rappelle une chose, c'est le psaume 1, vous le connaissez ? Heureux l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça aussi, c'est une recommandation. Mais qui trouve son plaisir, ça veut dire qu'au travail et tout ça, vous pouvez sortir d'une conversation, même si physiquement vous êtes obligé de rester, vous pouvez sortir une conversation, hein, qui sont des moqueries, etc. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le rend prospère. Ouais, on est dans la prospérité. Amen. Alors j'aime ce poème un petit peu que j'ai trouvé quelque part qui donne un peu la concision de ce qu'on vient de dire, et je voudrais terminer là-dessus. Heureux celui qui, près du fleuve, arbre vivant par toi planté, prend racine et croît, et s'abreuve de ses eaux dans l'éternité. Il porte son fruit et prospère, sa vigueur croît de jour en jour. Heureux celui qui, sur la terre, boit à la source de l'amour. Je le répète. Heureux celui qui, près du fleuve, arbre vivant par toi planté, prend racine et croît et s'abreuve de ses eaux dans l'éternité. Il porte son fruit et prospère, sa vigueur croît de jour en jour. Heureux celui qui, sur la terre, boit à la source de l'amour. Que ce soit pour nous, pour vous, en 2011, eh bien, le résultat de ce que nous vivons avec le Seigneur, que nous puissions porter du fruit à sa gloire, et ainsi il sera glorifié, et cette Église pourra être un rayonnement spirituel dans cette ville et cette région. Que le Seigneur nous aide à le réaliser. Amen.